mode d'emploi.
Allez, bienvenue à la reprise. Donc c'est le mode d'emploi, ça vous connaissez l'émission, le format secret de fabrication comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois sur RFPP 106.3 FM, www.rfpp.net. Et donc nous allons parler des sujets chauds de la rentrée, enfin d'un sujet chaud de la rentrée, notamment qui... c'est un peu le branle-bas de combat aujourd'hui autour de la question de la prévention des atteintes à la santé au travail. Donc la prévention, on va élargir un peu le débat sur la médecine du travail et son devenir, notamment parce que y a des projets gouvernementaux et qui s'articulent autour d'un rapport qui est sorti sans faire grand bruit d'ailleurs très récemment, qui s'appelle le rapport Lecoq. Alors, c'est quoi le rapport Lecoq ? C'est un rapport qui préconise des pistes de réforme des systèmes de santé au travail. Alors, ceux qui ont suivi cette émission savent que c'est pas la première fois qu'on parle de la réforme des systèmes de santé au travail, comme on a pu parler aussi de la réforme de l'inspection. On va vous le dire tout de suite, comme d'habitude, ça va pas dans le bon sens. J'ai autour de la table Jean-Louis.
Bonsoir.
Donc Jean-Louis, tu es médecin du travail, syndiqué à la CGT, voilà. Nous avons également avec nous Nathalie.
Bonsoir.
Voilà.
Bonsoir.
Voilà, Nathalie. Donc Nathalie, tu es sociologue du travail. En tout cas, tu as fait des études de sociologie
du
travail. Voilà, vas-y, explique-nous plus précisément.
Moi, j'ai fait une thèse sur le militantisme et j'ai fait un postdoctorat sur les conséquences politiques des inégalités dans la région de San Francisco et plus particulièrement à Oakland.
Et donc, alors on se dit, inégalité, santé au travail, il n'y a pas de rapport. Si, en fait, on va voir qu'il y en a. La souffrance n'est pas également répartie, on n'est pas tous égaux devant la souffrance au travail. Ça se concentre, on sait que la pénibilité se concentre dans certaines professions, mais c'est justement sous les pieds des professions les plus fragilisées que le tapis va être tiré. C'est là où il faudrait être le plus vigilant, que la vigilance va baisser. Alors juste avant d'entrer en plein dans le vif du sujet, nous avons une première analyse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas tardé à prendre le taureau par les cornes, notamment le collectif Ne pas perdre sa vie à la gagner, dont on a déjà parlé ici et dont on a déjà discuté des initiatives, notamment les états généraux de la santé au travail. Et donc ce collectif, ils se sont amusés à prendre le rapport Lecoq et à le mouliner à travers un ordinateur pour voir quels étaient les mots qui revenaient le plus souvent. Alors on a des choses intéressantes, comme par exemple, donc dans le rapport Lecoq, on a 136 fois les termes conseil et conseiller, sans surprise. On a 95 fois les termes accompagnement et accompagné. Donc on se dit, donc on va conseiller et accompagner. Alors là où ça devient rigolo, c'est évidemment qualité de vie au travail, QVT, ou l'acronyme QVT apparaît 46 fois, et bien-être apparaît 23 fois. On se dit, c'est formidable, bien-être, accompagner vers la qualité de vie au travail, tout ça va bien. Alors il y a des choses qui sont assez amusantes. Sanctions et sanctionner n'arrivent que 11 fois. D'accord ? Sans qu'on sache à ce stade s'il s'agit de sanctionner. Donc on pourrait avoir des surprises de ce côté-là. Et alors là où ça devient carrément marrant, c'est que infraction n'apparaît pas. 0 fois. Faute inexcusable en matière de santé au travail n'apparaît pas. Donc le terme de faute inexcusable, qui est pourtant un des piliers de la sanction de l'irrégularité des conditions de travail, ça n'apparaît plus. Et mal-être n'apparaît pas du tout. Suicide apparaît une fois. Une fois, alors qu'on sait qu'il y a quand même une forte corrélation, on l'a vu dans cette émission. Voilà, donc c'est pour vous dire un peu, ça oriente tout de suite notre vision du rapport Lecoq. Et donc, je me tourne vers Jean-Louis. Comment est-ce que tu qualifierais, toi, l'esprit du rapport Lecoq par rapport à sa lecture de la santé au travail, et qu'est-ce que ça nous dit sur la trajectoire que va prendre la réforme après la publication de ce rapport Lecoq et l'application des mesures gouvernementales? Comment tu vois les choses de ce côté-là?
Jérôme, t'as bien dit que en notant le nombre de fois qu'un certain nombre de mots Et donc, de concept politique qui est derrière, t'en as oublié un qui est important parce que, finalement, grâce à ce rapport, grâce au Big Bang du système de prévention des risques professionnels des travailleurs, eh ben, la performance économique et sociale sera au rendez-vous. Donc, clairement, on est sur de la performance économique et sociale. Et comme tu l'as dit, je rajouterai une autre chose, puisque je suis médecin du travail. Mmh. On n'est plus du tout dans la prévention de la santé, mais on est dans la promotion de la santé.
Ah.
Donc, la promotion de la santé, c'est quand même très clair. Vous pouvez le voir dans vos entreprises. C'est quand même manger 5 fruits et légumes par jour. C'est faire du sport, c'est bien dormir. C'est donc une vision qui n'est pas si récente que ça, médicalement. Au 19e siècle, il fallait déjà ce qu'on a commencé par appeler l'hygiène, hein, l'hygiène de vie. Donc on est dans une vision de prévention qui déresponsabilise clairement les employeurs et qui responsabilise les travailleurs et les travailleuses. Si vous avez une atteinte de votre santé du fait de votre travail, un, c'est que vous avez un mauvais comportement.
Mmh.
Donc on reste dans la logique d'individualisation des risques. Ça, pas de nouveauté, hein, ça fait plus de 30 ans que les organisations du travail individualisent les travailleurs pour mieux casser les collectifs dans les mobilisations collectives qu'on connaît bien. Et deux, effectivement, le coupable, c'est absolument pas nos employeurs.
C'est le salarié.
C'est le salarié, c'est l'individu qui est déviant, clairement. Dans ce rapport, politiquement aussi, il faut quand même passer d'obligations contraignantes pour nos pauvres entreprises à ce que l'Europe, depuis très longtemps, appelle la soft law, c'est-à-dire, en gros, que dit le rapport Lecoq dans ses 16 recommandations ? Eh bien, elle parle de inciter les entreprises, c'est une incitation, c'est plus une obligation, à s'engager, oui, il y a un engagement, davantage dans la prévention par une approche valorisante. Rien que cette recommandation, qui est la 4e recommandation du rapport Lecoq, tu comprends aisément que tout ce qui est obligation de sécurité de résultat, alors qui est certes le résultat de la jurisprudence et non pas de la loi, puisque depuis que la Chambre sociale de Cour de cassation, en 2002, lors des affaires de l'amiante, a bien mis en avant que ce n'était plus une obligation de moyens des patrons pour prévenir la santé et la sécurité au travail, mais une obligation de résultat, il faut absolument, pour augmenter la compétitivité de nos entreprises, passer d'une obligation de résultat en santé et sécurité au travail à une obligation de moyens.
C'est-à-dire qu'en fait, ça se traduit alors du côté de l'inspection du travail. La réponse est le plus souvent non pas oui, il y a eu ou non, il n'y a pas eu un accident du travail. Donc non, oui ou non, il n'y a pas eu une défaillance de la prévention et de l'analyse des risques. À nous avons-nous ou n'avons-nous pas fait des gestes ou avons-nous ou n'avons-nous pas entamé des politiques visant, d'après nous, à réduire les risques. C'est-à-dire, grosso modo, le patron va faire preuve de sa bonne foi en multipliant les signes qu'il a fait quelque chose. Mais jusqu'ici, le problème que nous, on avait quand on allait dans l'entreprise, c'est pourquoi y a-t-il eu un accident plutôt que rien ? Et là, aujourd'hui, c'est a-t-on fait quelque chose plutôt que rien, et l'accident devient secondaire par rapport aux gestes qu'on a fait, en fait, aux mesures qu'on a prises, qu'elles aient abouti en fait à éviter ou pas l'accident, en fait, parce que l'important c'est qu'on ait pris des mesures, pas que l'accident ait eu lieu ou pas.
Mais quand t'entends les patrons, ce qui revient souvent, c'est la pauvre insécurité juridique dans laquelle ils sont quand même.
À l'insécurité juridique.
L'insécurité juridique est un leitmotiv en matière de santé et sécurité au travail, à cause de ces lois coercitives, à cause de l'inspection du travail, qui est donc avec les services de prévention des risques professionnels de la sécurité sociale, dans la coercition. Et on sait très bien, c'est ce que nous donne le rapport Lecoq, que la coercition, mais ça bride nos patrons. Ils savent qu'ils seront toujours responsables, quoi qu'ils fassent. Donc, la coercition nuit à la prévention. Supprimons la coercition.
Oui, c'est un raisonnement particulièrement... Enfin, c'est particulièrement vicelard, oui, effectivement.
Alors, en particulier, tu as un document... Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que là aussi, comme vous le savez peut-être, tous les textes sur la santé et la sécurité au travail depuis les années 1990, pardon, c'est la transcription des directives européennes. Et dans ce rapport Lecoq, au miracle, le document obligatoire demandé aux entreprises à partir d'un salarié, qu'on appelle le document d'évaluation des risques professionnels. Eh bien, ce document serait transformé en un plan de prévention, au cas par cas. En gros, si tu traces en tant qu'employeur, et je me mets à la place des employeurs, évidemment, en termes de contentieux, tu peux évidemment laisser une trace écrite. Donc, supprimons ces documents écrits qui sont source de preuves et d'emmerdements judiciaires pour rien.
D'accord. D'accord, pour rien.
Donc ça, c'est les propositions du MEDEF, enfin du patronat.
Non, parce que je te rappelle, parce qu'on dit toujours rapport Lecoq. On dit toujours rapport Lecoq, mais rendons à César ce qui est à César. C'est le rapport Lecoq, Dupuis et Forest.
D'accord.
Et le docteur Forest, confrère, donc, à retraité, ancien médecin du travail, secrétaire confédéral de la CFDT, ne fait pas partie du MEDEF. Donc, ne disons pas que le rapport Lecoq, Dupuis et Forest est le rapport MEDEF, ce qui est faux.
C'est le rapport MEDEF-CFDT ?
Peut-être.
Ah, oui, d'accord.
Non, je préfère dire en toute honnêteté que je n'ai pas lu le rapport Lecoq. Mais enfin, j'imagine qu'ils ont bien été voir des gens. Enfin, ça leur vient pas. Enfin, ils ont fait quand même le tour, un petit tour d'horizon des uns et des autres pour écrire ce rapport. Enfin, j'imagine.
Ne t'inquiète pas.
C'est bien de l'émanation de quelques esprits bien trempés.
Ne t'inquiète pas, comme tout rapport, tu as donc les personnalités auditionnées.
Ah.
Effectivement, nous voyons parmi ces personnes auditionné, un courant idéologique qui serait quand même assez proche d'un libéralisme économique, puisque quand même, je le rappelle, le frein à la compétitivité économique, c'est tout le système qui prévient la pénibilité au travail. D'ailleurs, notre actuel président de la République nous l'avait bien dit, le travail n'est pas pénible. Et voilà pourquoi, dès le mois de juillet 2017, tout le système qui avait été mis en place pour essayer de faire passer la pilule de la retraite à 62 ans, qui était donc le compte de prévention, enfin le compte pénibilité, eh bien, ce compte pénibilité est devenu le compte prévention pénibilité. Et alors, moi qui suis médecin du travail dans le BTP, il y avait des facteurs comme la manutention manuelle de charge lourde. Eh bien, cela n'existe plus depuis juillet 2017.
Ouais. Alors juste un petit point sur... Tu as parlé de directives européennes. C'est vrai que depuis que l'Europe a commencé à comment dire, réviser et imposer des directives qui venaient réviser des lois déjà existantes dans les différents pays européens, on a vu apparaître des termes que nous, on a trouvé très étranges à l'inspection du travail, comme « mesures équivalentes ». C'est-à-dire... On n'était plus effectivement sur... alors, puisqu'on est dans le BTP, je vais parler du décret de 65, voilà, pardon, le décret de 65, qui était notre texte de base jusqu'à assez récemment à l'inspection pour faire appliquer la sécurité sur les chantiers du BTP, qui était en fait un décret extrêmement précis, avec des mesures techniques. C'était oui, non, ces mesures techniques sont-elles appliquées ? hein, sur la couverture des trémies, sur la hauteur des échafaudages, sur la solidité, sur les manières de faire différentes choses, démolition, construction, préparation du chantier, etc., circulation sur le chantier. C'était très précis. Et en fait, c'était noir ou blanc. On avait respecté ou on n'avait pas respecté le décret. Et c'est devenu, par la magie des directives européennes, qu'on pouvait remplacer n'importe laquelle de ces prescriptions fermes par des mesures équivalente en termes de sécurité. L'équivalence, on n'avait aucune idée de comment c'est la calcul, on la calculait, parce qu'en fait, il suffisait que l'employeur dise « J'ai évalué la mesure qui a remplacé la mesure obligatoire et je l'estime, par la magie de l'évaluation que j'ai produite, équivalente en termes de sécurité à la chose que j'ai refusé de faire. » Donc, et là, on voit, ça ouvre une petite porte qui devient une énorme porte, parce qu'en fait, bah, si on arrive à démontrer, ou si on fait semblant de démontrer qu'on a mis en place une mesure de protection équivalente, ou d'efficacité équivalente, eh ben, on peut se passer de la mesure qui, elle, noir sur blanc, appliquait une véritable sécurité. Et donc, ça, petit à petit, par touche, les directives ont progressivement remplacé des mesures claires, applicables, dont on pouvait mesurer l'application, par des choses dont il fallait débattre de l'efficience. C'est-à-dire que on entrait dans des débats de fous sur l'efficacité en termes de prévention des mesures, puisque le patron pouvait chercher à démontrer que ce qu'il avait fait avait une efficacité en termes de protection équivalente à ce qu'il n'avait pas fait. Voilà. Et donc, on commençait à rentrer dans des débats de fous. Et là, on arrive au bout du bout, parce que maintenant que même l'accident n'est pas la preuve d'un défaut de prévention, en fait, l'accident est juste la preuve de plein de choses, mais n'est pas la preuve d'un défaut de prévention. On peut débattre, y compris quand il y a un mort, de est-ce que l'employeur a fait le nécessaire, ou est-ce que ces mesures étaient équivalentes en termes de sécurité et que faute à pas de bol. Hein, c'est un peu ça, c'est vers ça qu'on va, c'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'évaluer la dangerosité ou le degré de prévention d'une mesure telle qu'elle est mise en place par le patron, parce que on entre dans des discussions, des arguties, et on est dans la soft law, c'est-à-dire que il faut aller au tribunal et ça se plaide, quoi. Et en fonction de ce que dira le tribunal, la jurisprudence déterminera si la mesure était oui ou non, etc., etc., etc. Hein?
Alors, l'autre mot du rapport Lecoq, c'est simplification, simplification, simplification. Vraiment, notre système de prévention des risques professionnels est très compliqué pour nous, tous, travailleurs. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, il y a des institutions comme les services de santé au travail, organismes de droit privé gérés majoritairement par les patrons quand même. Alors, il y avait quand même encore quelque chose de gênant dans les services de santé au travail, c'est que la représentation des travailleurs était encore là. Le MEDEF, dans son université d'été, sur le thème de la santé au travail, la seule représentation des travailleurs dans ces services de santé au travail... Alors pourquoi c'est important? Parce que normalement, les services de santé au travail sont quand même là pour prévenir la santé des travailleurs et non pas pour faire, comme j'entends souvent, une prestation de service aux entreprises. Alors la prestation de service, c'est dire, en gros, un médecin, il va vous dire, vous fumez pas du cannabis, vous fumez pas de l'alcool, c'est pas bien le tabac, et faites du sport. Et il vous parlera pas de votre travail. C'est une prestation de service de haute qualité, comme vous le savez. Concernant donc les services de santé au travail, on va dans un machin régional les associer à l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, donc ces agences qui ont été créées au début des années 70 et qui ont été un progrès indéniable, puisque on s'est dit, tiens, pour prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail, si on réfléchissait sur les organisations du travail. Mot évidemment tabou, puisque vous le savez, le pouvoir de direction s'exprime par son organisation du travail. Regrouper donc les agences régionales d'amélioration des conditions de travail. Deuxième chose, la sécurité sociale au niveau régional. Alors nous, dans notre région, ça s'appelle la CRAMIF. C'est-à-dire des contrôleurs de sécurité, j'étais avec eux ce matin, qui vont dans le travail réel, dans les chantiers, et qui ont une action déterminante de rappeler, évidemment, que la ligne jaune a été dépassée, tout ce beau monde se réunirait dans une agence régionale de santé. Donc, ce serait la suppression des services de santé au travail.
Alors, je tiens à dire que ça, on va voir tout de suite que tout ça, ça vient d'assez loin, en fait. C'est pas du tout quelque chose de récent. Enfin, on a du projet derrière. Hein. On a du projet. Mais ce qu'on a vu, nous, moi, sur le terrain, en tant qu'inspecteur de travail, j'ai vu les contrôleurs de sécurité des agences de sécu, par exemple de la CRAMIF, hein, moi, je travaille en Île-de-France, progressivement être bridés et orientés, non pas vers du contrôle, hein, parce qu'on les trouvait, avant, nous, quand on allait sur les chantiers, on les trouvait à nos côtés. On faisait des contrôles communs avec les agents de la CRAMIF. C'est-à-dire qu'on avait des spécialistes de la prévention qui venaient avec nous. Nous, on faisait le droit. Eux, ils faisaient la prévention. Et la combinaison était assez redoutable parce qu'on arrivait à coincer le patron en lui disant, bon, bah, du point de vue de la prévention, c'est pas bon. Et en termes de droit, ça se traduit par ça. Généralement, un procès verbal. Ils aimaient pas. On a vu s'éloigner de nous les contrôleurs de la CRAMIF parce qu'ils étaient orientés sur des mesures a priori, notamment des campagnes, hein, qui, en fait, les éloignaient du contrôle effectif des conditions de travail. C'est-à-dire, ils venaient. D'un coup, ils arrivaient sur le chantier, mais eux, ils allaient directement voir les véhicules utilitaires légers garés dans le parking du chantier parce que c'était la campagne du moment. Et pour les amener avec nous faire du contrôle risque chimique, par exemple, c'était plus possible. Ils avaient autre chose à foutre. Et ça, par exemple, c'est par petites touches, en imposant ça aux contrôleurs de la CRAMIF, aux médecins du travail, à nous-mêmes. Nous aussi, maintenant, on est fléchés sur des actions prioritaires et des campagnes. Et ils arrivent à éloigner, en fait, l'esprit du contrôle par une espèce de formalisme de la campagne de prévention. Et c'est ça où on a la mesure équivalente dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la prévention effective par le contrôle a été remplacée par une mesure formelle qui, si elle a été effectuée, est considérée comme ayant fait son boulot. Même si ça n'a aucun rapport avec le risque qu'on va constater effectivement. On s'éloigne du réel, et même quand on appréhende le réel, on l'appréhende à travers une grille de lecture qui nous focalise sur telle ou telle campagne, tel ou tel indicateur chiffré qu'on va remonter suite à notre action. Et on s'éloigne effectivement de notre tâche de prévention pour faire du formalisme, du nombre, du chiffre et de la remontée statistique sur des campagnes qui ont été décidées par en haut pour correspondre ou pas à la réalité du terrain.
Alors, pour revenir sur un métier que je connais un peu, c'est-à-dire le médecin du travail, en fait, c'est exercer un métier hors sol.
C'est ça.
Pourquoi ? Parce que au niveau régional, actuellement, un médecin du travail, certes, la loi, depuis 2012, nous a donné le rôle de manager d'équipe.
Bravo.
Puisque j'anime et je coordonne une équipe. Cette équipe, elle est constituée de professionnels de santé, donc infirmiers, de professionnels qu'on appelle donc soit ergonomes, soit toxicologues, soit psychologues du travail. Et, première attaque, le suivi individuel des travailleurs se fait uniquement en fonction de risque. Et en fonction de risque déclaré par l'entreprise.
Ah, c'est beau ça.
Donc,
alors déjà qu'il était passé de un an à deux ans, là maintenant c'est...
5 ans. Quand tu n'as pas de risque déclaré, tu as... Mais l'État te dit, rien n'a changé. Puisqu'en tant que salarié, tu peux prendre ton téléphone et appeler ton médecin du travail à ta demande. Évidemment, si c'est sur le temps de travail, il va falloir quand même que tu justifies à ton patron qu'est-ce que tu vas foutre avec ton médecin du travail, t'as un problème ou quoi de santé. Donc, certes, rien n'a changé, mais effectivement, comment, puisque je rends compte à la collectivité des travailleurs sur ce que j'ai compris collectivement des effets du travail sur la santé. Quand je les vois tous les 5 ans, et même quand je les vois tous les 2 ans, ah oui, malheureusement pour le patron, la consultation va durer évidemment plus longtemps. Parce que dans nos organisations du travail, en 2 ans, je peux te dire qu'il s'en passe des choses. Et que ça impacte, pas qu'un peu, les différents santé physique et mentale des travailleurs et travailleuses. Donc, pourquoi je disais hors sol ? Parce que un médecin du travail, sa spécificité, c'était d'avoir un double regard. Un regard de clinique, comme tout médecin. Et 2, il avait l'obligation de se coltiner au minimum 150 demi-journées par an le travail. Alors, évidemment, il n'était pas toujours bien reçu. Parce que il y a certains employeurs qui ne comprenaient pas pourquoi un médecin quittait son cabinet. Le rapport Lecoq renforce le rôle d'expert médical restant dans son cabinet qui gérera quoi ? La sélection biologique de la main-d'œuvre. En gros, on revient sur l'historique de l'institution médecine du travail, puisque malheureusement, mon institution est née en 1942, je ne vous fais pas un dessin, et clairement, pour le service du travail obligatoire, il fallait quand même des médecins.
D'accord, pour envoyer les gens en bonne santé en Allemagne, c'est ça ?
Voilà,
d'accord.
Ben là, okay. Si tu veux, en gros, une fois okay. qu'on a bien sélectionné biologiquement la manœuvre, il n'y a pas de pénibilité. Donc au bout de 40 ans, c'est de ta faute si tu es usé. Mmh. Et donc que fait le médecin ? Eh bien, il conclut à une inaptitude. Et malheureusement, la dernière réforme de 2016 permet aux médecins la chose suivante concernant le reclassement professionnel. Si malheureusement j'ai le malheur d'écrire pour le patron que vu son état de santé à son salarié, il n'a même pas besoin de chercher un reclassement professionnel. Toutes les études sur les inaptitudes médicales, malheureusement, 90 à 95% se soldent par un licenciement sec.
D'accord. Et là, pour le coup, justifié par la formulation mise dans l'avis d'inaptitude.
Exactement.
Okay. Alors là, je complète en disant que, encore une fois, il y avait une très forte synergie entre la médecine du travail et l'inspection du travail, qui a tendance là aussi à être diluée, notamment parce que sur la contestation, et là pour le coup c'est une autre réforme, mais tout ça c'est lié, c'est-à-dire que grosso modo c'est un plan à long terme qu'on voit apparaître comme un serpent de mer de réforme en réforme, mais avec un objectif qui a toujours été le même. Comme tu nous l'as dit avant l'émission, et donc sur quoi on reviendra, c'est en fait éloigner le médecin du travail, et voire éloigner carrément le médecin du travail des services de santé au travail. Hein. Mais par ailleurs, il y avait au moins un lien qui se faisait, c'est-à-dire que quand il y avait une contestation de l'avis d'inaptitude, c'est-à-dire que le salarié qui considérait que l'avis allait trop loin ou bien pas assez loin aussi d'ailleurs, des fois ça pouvait être dans l'autre sens, et qui voulait contester son avis, saisissait l'inspection du travail. L'inspection du travail se tournait alors vers un corps spécialisé qui s'appelait les médecins inspecteurs régionaux du travail, dont tu as été d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est ça que...
Oui, effectivement, dans un passé.
Dans un passé, voilà, dont nous avons vu, nous, de notre côté, les effectifs baisser de manière continue, voilà, sans qu'il y ait rien d'être soit fait pour remédier à ce problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des pénuries dans ce corps-là. Le médecin inspecteur régional, donc, examiner l'avis médical, réexaminer la situation, nous donner son avis, et nous, on tranchait sur fallait-il maintenir ou invalider l'avis médical. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait devant les prud'hommes, avec une augmentation du coût, c'est-à-dire qu'il faut payer un certain nombre de frais, avec une augmentation des délais. Nous étions dans des délais contraints, donc on faisait dardard, on mobilisait nos ressources pour obtenir un résultat rapide. Avec les prud'hommes, c'est beaucoup plus flou, le temps que ça va prendre. Et donc, et en plus, les prud'hommes, les conseillers prud'homaux avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, me disent, on maîtrise pas du tout cette procédure. On ne maîtrise rien du tout de tout ça. C'est un champ qui nous échappe. Et donc, on a un contrôle sur les avis d'inaptitude dont la qualité baisse.
Alors, Jérôme, je vais te rassurer.
Vas-y.
La seule bonne nouvelle du rapport Lecoq,
oui,
c'est le retour de l'inspection du travail en cas de contestation. Donc, c'est la seule bonne nouvelle du rapport Lecoq.
Super.
Mais pour revenir sur ce que tu dis,
on a fait tout ça pour rien, quoi.
Le travail avec l'inspection du travail, c'est aussi dans une instance représentative du personnel qui, compter de quelques mois, va être supprimé.
Ouais.
Le CHSCT. Et c'est donc la logique de la suppression du CHSCT qui continue avec ce rapport Lecoq. Le CHSCT, c'était l'endroit, un, où, malgré l'absence de moyens, tu faisais payer au patron une expertise en tant que représentant du personnel si tu ne te sentais pas assez outillé. Et surtout, grâce à cette instance, le nombre de fois où les juges ont condamné le patron pour une modification du travail impactant fortement la santé, c'est le fameux arrêt de l'entreprise SNECMA en 2005, qui a fait reculer l'entreprise, qui avait décidé de changer une organisation en laissant un bonhomme dans une situation de travail isolé beaucoup plus grave qu'auparavant. Donc c'est la même logique. Le CHSCT détruit. Alors certes, on vous dira non, il n'est pas détruit. Il y a le fameux CSE avec la commission santé sécurité travail. Voilà. Mais c'est cette même logique. On supprime la parole des travailleurs.
Donc un CHSCT, c'est comité d'hygiène et de santé.
Sécurité et conditions de travail.
Voilà.
Et ça effectivement. Alors voilà. Et donc on voit bien. Alors on va bientôt mettre un petit morceau de musique, le temps de digérer tout ça. Hein. Mais on voit bien la logique qui consiste à affaiblir l'inspection du travail, on en a parlé dans cette émission. Supprimer le CHSCT, on en a parlé dans cette émission. Mettre le médecin du travail à distance des situations de travail, on est en train d'en parler maintenant. C'est une logique qui vient de loin et dont toutes ces réformes, parce qu'on a on est en train de parler là en fait d'une succession de réformes 2015, 2016, 2017, aujourd'hui 2018. C'est-à-dire que année après année, en visant, en ciblant des choses un peu différentes, on se retrouve avec un recul global de toute l'architecture de protection de la santé des salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire que chaque pilier qui formait un tout, hein, qui s'entrecroisait et qui se soutenait les uns les autres, chaque pilier est en train d'être affaibli, est en train de reculer, et donc la protection globale est en train d'être liquidée. Donc, le résultat, c'est une multiplication de maladies professionnelles, dont une dont la chanson qui arrive va nous parler et qui malheureusement se multiplie dans les entreprises.
Et d'arrêt de travail.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère.
Et voilà, nous voilà de retour sur le studio et nous avons une invitée surprise. Ouais, une invitée surprise. Alors, présente-toi, qui est cette invitée surprise?
Oui, c'est Selma.
Selma?
Oui.
Selma?
Oui.
Oui, bienvenue. Heureusement, t'es revenue. Ouais, je suis super content. T'es au téléphone?
Oui.
Bon.
Écoute, vu le sujet, je pouvais pas résister.
Je l'ai fait exprès.
J'ai 30 secondes pour dire quelque chose.
Bien sûr.
Bah, je voulais dire déjà un grand merci pour cette émission parce qu'il y a peu de textes ou qui décortiquent, décryptent ce rapport Lecoq et en décryptent les attaques. Je voulais dire aussi que vraiment je voulais souligner une phrase, juste une de ce rapport.
Vas-y.
En page 2.
Mm-hmm.
L'avant-propos, il démarre par cette phrase qui dit: les femmes et les hommes constituent la première ressource stratégique de l'entreprise.
Ah, c'est beau.
Et cette phrase, nous dit le rapport, c'est celle qui devrait guider la mise en œuvre de toute politique en matière de santé et de sécurité au travail. Moi, je trouve que dire ça, c'est comprendre toute l'idéologie qui soutient ce rapport-là. Alors, nous autres, professionnels et militants pour la santé au travail, il y a une autre assertion qui, selon nous, devrait guider toute politique en matière de santé et de sécurité au travail, c'est qu'aucune organisation du travail ne doit compromettre la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs. Et pour que cela ait lieu, il faut de la coercition. Moi, ça fait près de 20 ans que j'œuvre modestement mais sûrement dans les coulisses de l'entreprise pour essayer d'empêcher que les salariés crèvent d'organisation du travail délétère. Et je n'ai jamais vu d'experts ou d'inspecteurs du travail ou autres arriver à faire quelque chose sans coercition.
Mmh.
Voilà. Mmh. Je ne vais pas passer plus de temps. Je voulais surtout dire un grand merci et un coucou à l'émission.
Bah, c'est gentil. Hey, tu sais que... Enfin, je veux dire, là, on a une chaise vide en face. Enfin, j'ai une chaise vide en face de moi et un micro où il y a personne derrière. Donc, tu me comprends, quoi, hein?
Je comprends.
Ouais, cool. Bon, écoute, c'est avec plaisir que tu reviens quand tu veux sur n'importe quel sujet que tu veux. Tu me fais un coucou et on organise ça, pas vrai?
Entendu.
D'accord, c'est noté.
Bon courage.
Jean-Louis, tu veux dire quelque chose à Selma là-dessus ?
Eh ben écoute, merci de ton intervention parce que effectivement cette phrase, elle est emblématique et elle résume parfaitement, comme tu l'as dit, l'idéologie qui est derrière. Et je te rejoins, effectivement, la pierre angulaire, c'est les effets des organisations du travail sur l'aggravation des de la santé physique, parce qu'on parle aussi toujours de la santé mentale, mais malheureusement, un certain nombre d'infarctus du myocarde, un certain nombre d'accidents vasculaires cérébraux sont bien liés aux effets délétères des organisations du travail depuis 30 ans.
Et c'est pour ça que nous aussi, à l'inspection, on a aussi une phrase comme ça, et c'est la suivante. Il faut adapter le travail à l'homme et non pas forcer l'homme à s'adapter au travail. Et
donc ça, un c'est... des principes généraux de prévention.
Eh ben oui,
qu'on a
ben oui.
réussi à faire entrer dans le code dans les années 90. Et il faut qu'on se batte pour qu'il soit effectif.
C'est ça, exactement.
Je raccroche et je continue à vous écouter.
Mais pas de souci, hein. On pense à toi.
Salut.
Ciao, à bientôt. Oui, voilà. Donc là, on a vu effectivement, cette prévention là, dont on est en train d'essayer de changer le sens. C'est-à-dire avec toutes ces réformes, on est bien en train d'essayer de changer le sens de ce qui se passe en termes de prévention dans l'entreprise, changer la logique derrière ce système vers une logique de profitabilité, une logique libérale. Et là, je me tourne vers Nathalie parce que bon, dans le domaine de la santé, c'est une chose, mais c'est vrai que la logique libérale ne connaît pas de bornes. C'est-à-dire que si elle peut absorber toutes les sphères de l'existence au travail et en dehors du travail, elle le fait, quoi. Hein. Elle a pas vraiment de limites morales. Elle a quelques limites pratiques et encore, elle cherche sans arrêt à les subvertir, à les contourner, et que donc, toi, tu t'es penché un peu sur qu'est-ce que ça donne une société où tout est mis à l'aune de cette logique libérale, c'est tout est subsumé et intégré dans cette logique libérale, avec une génération d'inégalités croissantes. Et ce qui a des effets, hein, ça a des effets sur le corps social et des effets y compris politiques. C'est ça, hein,
Alors oui, enfin moi, enfin je pense que ça. Ça a trompé personne. Les inégalités sociales se recoupent avec des inégalités politiques. Mais pour en revenir donc à la question des inégalités et l'enjeu du débat de ce soir, à savoir la médecine du travail et son éloignement du système de prévention, c'est toutes les conséquences effectivement de cette baisse du coût du travail, hein, amorcée depuis les années 90 aux États-Unis et en Europe. Et je rappelle juste que hier, des travailleurs américains manifestaient dans la rue pour effectivement faire valoir l'augmentation du minimum fédéral, hein, qui est de 7,50 $ dans certains États des États-Unis. En Californie, il est passé à 14 $ pour San Francisco et à 15 pour Oakland, mais parce que Oakland a effectivement un passé historique de lutte très très important. Donc
c'est ce que les syndicats américains sont en train d'essayer de pousser aujourd'hui dans le Fight for 15, c'est-à-dire le combat pour les 15 dollars. Ils essaient partout où ils le peuvent, c'est ça, hein, d'imposer un minimum de 15 dollars. Donc c'est une bagarre, 15 bucks and a union, c'est-à-dire 15 dollars et le droit de se syndiquer. Hein? Alors oui. Ça marche pas exactement au niveau qu'ils voudraient partout, mais c'est un peu le sens du combat qui est mené à travers les États-Unis, si j'ai bien suivi, hein, là-dessus.
Sur la partie syndicale, je pourrais pas
d'accord.
répondre. Simplement, donc effectivement, les Américains manifestent du fait d'une détérioration donc du coût du travail. On parle de bad job, la précarisation à outrance, les travailleurs pauvres, étudiés par Catherine Newman. On a quelque chose qui tend effectivement à gangréner l'Europe avec cette baisse généralisée du coût du travail et son impact social, notamment sur la santé au travail, comme on vient de l'évoquer. Et là, donc, effectivement, une étude du British Medical Journal qui révèle une hausse inquiétante de la mortalité donc chez les adultes américains, d'âge moyen donc au cours de ces 17 dernières années, avec une accentuation, un déclin donc de la longévité à partir de 2014. Il y a eu donc une autre étude menée en Europe. Alors c'est vrai que les causes de la détérioration sont pas les mêmes qu'en aux États-Unis qu'en Europe. Aux États-Unis, elles sont liées davantage à la prise d'opiacés qui a été effectivement diffusée en masse dans les États les plus paupérisés, hein, et on voit que l'impact effectivement de ces opiacés touche dans un premier temps les femmes, donc les plus vulnérables, les femmes et les minorités ethniques.
Les opiacés, c'est-à-dire en fait les antidouleurs, quoi, c'est ça essentiellement.
C'est ça, c'est des antidouleurs, mmh. Voilà. C'est, mmh. Alors qui contiennent de la morphine, hein, d'après ce que j'ai lu, et donc avec une addiction très importante, avec un taux de mortalité derrière, et tout ça avec la bénédiction des autorités publiques, hein, puisque c'est le médecin qui délivrait ces ordonnances, et avec la pression effectivement des multinationales pharmaceutiques derrière. Donc voilà comment on gère, enfin comment on répond au mal-être effectivement de la vie sociale. Et alors, bien évidemment que tout ça a des conséquences politiques. On a effectivement donc, je sais que mes collègues américains de Berkeley ont mis en avant, ils ont écrit des rapports sur le fait que aujourd'hui le vote est réservé à une élite. Les pauvres ne votent plus, hein, du fait aussi d'obstacles nombreux bureaucratiques, le dépôt d'une ID pour les latinos citoyens, puisqu'il y en a beaucoup d'illégaux, la détention d'une licence, on dit en français d'un permis de conduire.
D'accord.
Merci.
Donc ils doivent avoir le permis de conduire pour voter.
Voilà. Donc effectivement toute une série d'obstacles administratifs.
Sans alors, parler des radiations de toutes les personnes qui ont eu mal à partir avec la justice.
Ah hein. Oui, alors ça c'est un fait notoire, absolument. Mmh. Effectivement, les détenus aux États-Unis ne peuvent pas voter.
Y compris après avoir purgé leur peine, c'est pour certains délits.
Absolument.
D'accord.
Voilà.
Oui, d'accord, ouais,
et donc il y a effectivement tout un pan de la population américaine qui n'a pas accès au vote. Et bien évidemment, pour ceux qui y ont accès, puisque moi j'ai fait des enquêtes hein, sur effectivement leur participation politique au mid-term de 2014, hein, donc on était encore sous Obama, même si effectivement sa popularité déclinait, hein, puisque les mesures post-crise n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Moi, j'ai interviewé des latinos et j'avais en face des gens qui avaient perdu 3, 4, 5 fois leur maison en l'espace de 5 ans.
D'accord.
Voilà. Donc
plusieurs fois dans l'année, en fait.
C'est un truc incroyable.
Qui serait installé.
Bien sûr. Et donc vous avez donc et ce qu'on constate malheureusement, c'est que ça encore, c'est une loi générale, hein, mais qui date de Karl Polanyi dans les années 30. C'est effectivement toute crise économique majeure entraîne. Donc effectivement un retour vers ce que aujourd'hui on appelle le populisme, qui est en fait un rapprochement vers l'extrême droite, hein, plus voilà, enfin puisque bon, il n'y a jamais eu vraiment dictature de gauche à part celle de Noriega. Bon, là c'est, on peut dire que c'est une exception historique. Bon, il y en a eu d'autres en Afrique, mais on va, c'est pas le sujet. Mais c'est pour dire que voilà, il y a un déficit de démocratie qui s'installe partout. On entre petit à petit dans un monde plutocratique, un monde fait pour les riches, par les riches, hein. Et ce système de redistribution. Alors, en France, on a effectivement un taux de pauvreté à 13%. Sans les aides sociales, on serait à 23%. En Allemagne, on est quand même à 17%. Donc, bien évidemment, tout ce monde-là, s'il est au banc de la société, il ne votera pas. Et ou s'ils votent, hein, parce qu'effectivement il y a quand même des catégories qui votent, elles votent effectivement pour ceux qui préconisent un retour au passé ou un...
Non, juste, je voulais savoir, Jean-Louis, toi tu nous cites aussi une autre source, hein, qui confirme effectivement cette dérive vers, par exemple, aux États-Unis l'explosion de la consommation d'opiacés. En Europe, ça prend des formes différentes. Hein,
ça prend des voilà. Alors, c'est vas-y. Ce que ça c'est plutôt des pathologies liées donc au travail là pour le coup, à la pression du management et à l'organisation du travail, qui effectivement donc charge physique, charge mentale aussi importante l'une que l'autre, et donc cette longévité en Europe effectivement tend à baisser. Elle a un petit peu remonté donc en 2015 avec effectivement le système redistributif, mais elle a décliné à nouveau en 2017.
D'accord, parce que moi j'avais lu qu'effectivement dans la Rust Belt qui sont les États américains qui ont voté, alors là pour le coup qui ont créé la surprise.
Oui, les États anciennement industrialisés,
anciennement démocrates, qui ont créé la surprise. Oui. En basculant du côté de Trump, on avait constaté chez les cols bleus, justement, un véritable pic de mortalité chez les hommes blancs, employés ou anciennement employés dans l'industrie, aux alentours de 45-50 ans. Et que donc, ça avait créé une crise à la fois identitaire et d'angoisse existentielle chez cette catégorie qui les a poussés à basculer vers des solutions radicales, attrayantes, démagogiques. Et donc, même si c'est pas forcément des liens directs, on voit bien que la dégradation de la condition, de vie et de travail, la dégradation de la santé en général, qui est bien due effectivement au travail. Hein, c'est ce qui c'est. Alors, il y a la pollution, bien sûr. Il y a essentiellement la pollution qui vient apporter beaucoup, hein, qui est aussi due à l'industrie, mais par des biais différents. Mais il y a aussi la forte pression au travail, l'augmentation en Europe et en France des suicides sur le lieu de travail, liés au travail, suite à des absences, des longues absences de longues maladies et des isolements de salariés.
L'augmentation des arrêts de travail aussi.
L'augmentation des arrêts de travail, à la fois en termes de nombre et en termes de durée et en termes de conséquences, c'est-à-dire que qui donne suite à des séquelles, qui donne suite à des difficultés, des cristallisations de plus en plus, handicapantes pour les salariés. Donc on voit bien que ces enjeux-là, c'est pas juste des enjeux, privés dans la chair du salarié. Ça a des impacts dans la société en sens large, y compris dans les processus de vote. On voit qu'il y a des gens qui sont extraits des processus de vote. Et par ailleurs, on constate que un certain nombre d'institutions électives qui étaient ouvertes aux salariés, comme par exemple les élections prud'homales, qui ont été supprimées, les CHSCT, qui sont supprimées. Donc c'est-à-dire que, y compris la voix des gens, alors ce que tu disais Jean-Louis, sur la voix des salariés qui n'est plus entendue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le vote à l'urne pour les élections, il y avait d'autres systèmes participatifs proches de l'entreprise qui sont en train d'être liquidés à bas bruit. Hein, et donc on est bien en train d'éloigner les gens d'une capacité de décision quelque part. Et ça, c'est pas surprenant qu'ils se tournent vers des solutions un peu radicales pour faire entendre leur voix, parce qu'ils ont plus tous ces mécanismes qui leur permettaient de faire entendre leur voix. Est-ce que vous pensez que là, on a un rapport de corrélation fort?
Moi, je me pose une question. Je comprends pas très bien ce que veut ce système capitaliste, puisque on sait que les inégalités socio-économiques fortes handicapent la croissance économique. Enfin, je suis pas économiste, mais enfin, ouais. Ça c'est quand même une des lois générales de l'économie. C'est bien évidemment que le maintien de la paix sociale, hein, même pour les défenseurs de la paix sociale, c'est bien évidemment une redistribution des richesses. Sinon, ça ne marchera pas, parce que à terme, et surtout que là, on a un paramètre pour le coût de taille, c'est la question du réchauffement climatique.
En plus.
C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a eu effectivement des épisodes traumatiques dans l'histoire qui ont permis donc la baisse des inégalités. Et là, je parle de la Première, de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, bon, il y a des chercheurs américains qui travaillent là-dessus. Ils ont remarqué qu'effectivement, pareil, après chaque crise, il y avait donc un retour du fascisme et des
solutions autoritaires. Oui.
Voilà, merci. Et que finalement, c'est après avoir touché le fond qu'on revenait vers une société plus ou moins égalitaire. On l'a vu en 46 avec effectivement
oui.
Voilà les fondements de la convention de 46
mmh. Bon. Partout d'ailleurs parce voilà. que partout dans tous les pays, voilà. c'est-à-dire qu'en Angleterre, ce qu'on appelle le Spirit of 45, qui
c'est
est en
ça.
Fait la mise en place d'un système beaucoup plus redistributif, beaucoup plus protecteur, mm. Bon, qui a commencé en Angleterre, y compris pendant la guerre. Hein. Hobsbawm, Eric Hobsbawm, qui mm-hmm. est un historien du XXe siècle, mm-hmm. dit que les Anglais étaient globalement en meilleure santé et mieux nourris pendant la Deuxième Guerre mondiale que pendant la période précédente, parce que tous ces systèmes avaient été mis en place. Protéger les enfants, protéger la famille, protéger les individus contre beaucoup de choses et avait été fortement redistributif. Et en fait, le niveau alimentaire global moyen, mm. hein, je parle pas de celui des riches, mais le niveau alimentaire global moyen de la population avait augmenté. Donc avec un effort, effectivement, et en période de crise, comme tu dis, on peut redistribuer, on peut retrouver une société plus égalitaire. Alors, je suis navré, l'émission touche à sa fin et je vous assure qu'on en avait deux fois plus sous le pied. Hein ? Non mais c'est vrai, hein, vous pouvez confirmer les camarades. Donc ce qui veut dire que il y aura une suite. Hein, on va voilà. Non mais c'est vrai, hein, on a développé. Il n'y a pas eu de souci et ça veut dire qu'on en a encore à dire. Donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir se revoir lors d'une prochaine émission. Je voulais juste passer la parole à Jean-Louis pour que si tu pouvais nous dresser un peu une conclusion d'après ce que tu vois, une perspective peut-être, quelque chose que tu peux.
Alors la perspective en quelques minutes ça va être compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que cette vision de la prévention des risques professionnels, plus exactement cette volonté du patronat de rendre invisibles les effets du travail sur la santé, puisque vous avez parlé à juste titre d'inégalité sociale, je ne vais pas vous refaire le chiffre qui a malheureusement pas bougé. À 30 ans, quand vous êtes ouvrier, vous avez 8 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Donc ça n'a pas bougé depuis des années en France. Donc c'est clair que le travail, il faut absolument donc se bagarrer pour améliorer ses conditions de travail, redonner, je le dis encore une fois, des espaces de parole, parce que oui, le travailleur est expert de ses conditions de travail et c'est lui qui pourra trouver des solutions de prévention.
Ok.
Juste pour dire que moi j'ai quand même une petite crainte, mm-hmm. c'est qu'on touche le fond, mm-hmm. et parce que je crois que là on est arrivé à un niveau de d'autisme généralisé et que je me dis que c'est peut-être en touchant le fond qu'on pourra effectivement, même si il y a un enjeu, je sais pas si on a le temps de le faire, puisque là les scientifiques,
en tout cas pas pendant l'émission.
Les scientifiques des sciences dures disent que voilà, on a plus que 20 ans en
ouais.
termes de ressources naturelles.
Ouais.
Donc voilà, je sais pas comment on va prendre à bras le corps tous ces enjeux.
Ouais. Mais moi je voulais juste, alors dans ce cas moi je vais me permettre de dire, moi je crois fermement que la ressource qu'on a aujourd'hui, et je parle pas de la ressource pour l'entreprise, je parle pour nous sauver. C'est notre propre capacité, mais là je dirais une fois désaliéné, à faire ce qui est juste pour nous et ce qui peut nous permettre de rebondir. Je veux dire, l'être humain a beaucoup de capacités, nous sommes très nombreux, et si on arrêtait pour la grande majorité d'être forcés à agir contre nous-mêmes, il y a une potentialité, une véritable libération des énergies qui nous permettra de surmonter la pente. Mais pour cela, on ne peut pas continuer à être forcé d'agir contre nous-mêmes. C'est pour ça que, effectivement, se redonner la parole, se redonner nos propres objectifs, et être en capacité de faire ce qui est bon pour nous, comme nous on le sait. Voilà. Donc, y compris au travail, cesser de subir les conditions, cesser de subir, cette aliénation permanente. Voilà. On va s'arrêter là pour le moment. On aura d'autres pistes à creuser. Nos invités reviendront, on n'a pas dit le dernier mot, et à bientôt sur Secret de Fabrication.